Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Julie Coulombe. Elle vient nous parler de père aidance famille. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet. Faut-il ou non se défouler? À la chronique de Catherine Stassin, il sera question du deuil chez les hommes. 5 mythes à déboulonner. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec « Je te pardonne » de Hoshi. Bienvenue à Folie douce.
Comme un poison dans les veines, y a mon âme coincée sous les verres, et dans ma bouche un goût amer. Je rêve seul avec mes acouphènes. T'as mis mon cœur en quarantaine. Mon amour tu m'as mise à terre, aveugle et sourde et sans repère. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne. Je voudrais oublier. Je me sens conne. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne. La nuit est longue, je me sens si seule. Mes rêves s'effondrent, ils tirent la gueule. Notre lit devient comme un cercueil. Mes pleurs se fondent avec la table. La nuit est longue, je me sens minable. Mes rêves s'effondrent et je pète un câble. Dans notre chambre, je vois même le diable. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier, je me sens conne. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, j'en ai vu assez. Les couleurs, j'ai broyé bien plus que du noir sur la palette de la douleur. Toutes les variantes du désespoir. Y'a toi qui peux me consoler, pourtant c'est toi qui m'as blessé. C'est plus pareil, je nous vois flou. Sens son odeur sur tes genoux. Je suis comme un soldat fusillé. J'ai pas vu l'ennemi arriver, mais j'ai appris à prendre les coups. Je compte bien me battre jusqu'au bout. Je te pardonne, on va tout reconstruire. Je te pardonne, je sais qu'on va guérir. Je te pardonne, je peux pas faire autrement. Je te pardonne, ça sera beau comme avant. Je te pardonne, accroche-toi à mes bras, abandonne. Tous les manèges à trois, je m'en tamponne. Du temps que ça prendra, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne. Je te pardonne.
Vous soyez branché, déboussolé, renfermé ou éclaté, vous s'éteignez actuellement Folie douce.
J'accueille maintenant mon invité, Julie Coulombe. Bonjour Julie.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à Folie douce.
Merci.
Vous êtes père aidante famille. On va tout savoir ce que c'est la père aidance famille. D'abord, j'aimerais qu'on parle de vous, en fait, de votre histoire. Comment finalement vous êtes arrivé à être père aidante famille, puis peut-être nous expliquer qui vous êtes finalement pour le bénéfice de tout le monde qui nous écoute.
Alors, je suis une, d'abord, dans ma vie personnelle, je suis une personne proche aidante pour un membre de l'entourage qui a un enjeu de santé mentale.
OK.
J'ai été initiée au système de santé, dans le fond, en 2015.
Quand même assez récent, là, mais...
Ça fait 8 ans.
Santé, quand on parle de santé mentale, là, vous avez été, parce qu'avant, vous n'aviez pas vraiment eu de gens dans votre entourage qui avaient une problématique, là.
Exact. Donc, j'ai connu les systèmes de soins de santé mentale il y a maintenant 8 ans. Mmh. Et part de cette expérience-là, j'ai décidé
de vous impliquer.
De m'impliquer, oui, dans le domaine. Alors, je me suis servi de mon vécu, de mon savoir expérientiel pour pouvoir redonner à d'autres membres de l'entourage, pour pouvoir les accompagner, les soutenir. Alors,
parce que la père aidance famille, en fait, c'est comme le fameux concept du père aidant. Dans le fond, c'est des gens qui ont vécu des problématiques, soit eux-mêmes, soit pour quelqu'un de leurs proches, puis qui peuvent aider d'autres familles qui rencontrent les mêmes problématiques. Parce que c'est un peu ça la beauté de la père aidance. On l'a au niveau individuel, mais là, c'est au niveau famille. Donc c'est...
Exact. C'est, dans le fond, la père aidance famille, c'est pour les membres de l'entourage au sens large. D'autant, ça peut être... frères, sœurs, parents, grands-parents, mais ça peut être aussi une personne significative parce que parfois, les gens n'ont plus de famille ou ils ont coupé les contacts, alors ça peut être quelqu'un de significatif,
un ami,
un voisin.
C'est ça. Alors, est-ce que c'est un nouveau concept, le père aidance famille? Est-ce que dans le sens, est-ce qu'on a élargi? Parce que je sais que la père aidance, ça fait quand même un certain temps que ça existe, puis ça s'est bien développé au Québec, là, quand on parle d'individu à individu, mais ce concept-là de père aidance famille?
Ça fait quelques années que ça existe, mais discret.
Okay.
Alors là, la profession est vraiment en émergence au Québec. Il y a des formations pour devenir père aidant en famille. Mm-hmm. Et puis, on est après s'implanter. Là, actuellement, c'est plus dans le milieu de communautaire, mais c'est appelé à changer peut-être éventuellement.
Oui. Donc, Julie, je pense que vous êtes impliquée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus? Je pense spécialement... Vous êtes impliquée avec une association, est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Oui, exactement. Dans le fond, moi, je suis père aidant de famille pour la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées depuis le mois d'août 2020.
Mm-hmm.
Et puis après ça, actuellement, je travaille aussi comme père aidant de famille pour la clinique jeune adulte psychotique au CHUM, donc les cliniques PEP, une clinique PEP.
Oui. Est-ce que ça, c'est assez nouveau comme service, il me semble, au CHUM, ou c'est quand même récent comme service?
Oui, exactement, mais les pères aidants en famille, dans le fond, on en retrouve actuellement dans quelques cliniques de premier épisode psychotique au Québec.
OK. Puis est-ce que vous diriez que ça aide une personne, ça aide, c'est certain que ça aide des familles, mais est-ce que de s'impliquer, est-ce que c'est aussi bienfaiteur pour les gens qui s'occupent de quelqu'un dans son entourage, par exemple?
Oui, ça fait, dans le fond, pour en venir à la père aidance famille, il faut avoir un propre recul sur son vécu. Hein? Mais la père aidance famille, c'est pas une thérapie, là. Père aidance famille, ça fait partie du rétablissement que peut avoir une père aidante famille également, là.
Mm-hmm.
Ça va faire partie de son parcours à elle.
Et qu'est-ce que ça apporte, en gros? Est-ce que ça évite beaucoup de temps d'attente ou de questionnement? Tu sais, parce que j'imagine que quand on a à gérer ou à conjuguer avec la santé mentale, habituellement, c'est quand on n'a pas vraiment trop d'expérience ou qu'on ne connaît pas vraiment le sujet, j'imagine que ça nous prend des gens qui vont nous rassurer, qui vont peut-être nous donner des trucs. C'est un peu ça que la père aidance famille peut aider d'autres familles?
La père aidance famille va répondre aux besoins d'accompagnement qu'ont les membres de l'entourage. Donc, les membres de l'entourage, ils ont besoin d'être soutenus. Souvent, ils arrivent avec... la culpabilité, des sentiments d'impuissance, culpabilité, du découragement. Hein? Ils sont épuisés d'avoir soutenu le membre de l'entourage. Puis là, enfin, ils ont des services. Donc, ça va aussi permettre de normaliser la situation, de déstigmatiser les problèmes de santé mentale, les répercussions sur les membres de l'entourage. Ça réduit, évidemment, j'en ai parlé, mais de beaucoup le sentiment d'impuissance. Ça va aider, un père aidant famille va aider à la navigation un peu dans le système de santé parce qu'il a passé par là.
Ouais.
Parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient. T'sais, sans que la situation soit jamais similaire à 100%, il a une bonne idée de ce qui s'en vient. Il connaît les services qu'offre le communautaire, les ressources dans le communautaire. Alors ça, c'est intéressant également.
C'est ça aussi, on parle souvent tu sais, des soins de santé puis des hôpitaux, tout ça, mais il y a beaucoup, il y a un grand milieu communautaire qui s'est développé depuis des décennies, tu sais, qui a une expertise. Il ne faut pas l'oublier dans le rétablissement puis dans l'aide à une personne.
Là. Les organismes communautaires, c'est essentiel. C'est des organismes qui vont offrir du soutien. Parfois, on va pouvoir trouver dans certains organismes communautaires, on trouve des intervenants psychosociaux. On va pouvoir avoir de la formation. De l'information qui est fiable, qui est crédible. Alors, c'est une ressource essentielle, le communautaire.
Comment la connexion se fait entre la personne qui est père aidante, famille, et la famille qui a besoin d'une père aidante? Est-ce que c'est par les organismes, c'est par les hôpitaux? Comment ça réussit à se connecter?
C'est à géométrie variable. Parfois, les intervenants vont référer au père aidant-famille. Parfois, c'est les membres de l'entourage qui, avec leur recherche, vont avoir contacté un organisme communautaire et vont avoir un père aidant-famille. Mais vite, j'ai envie de vous dire que si vous voulez contacter rapidement un père aidant-famille, parce que c'est un service qui vous intéresse, il y a une ligne d'écoute des pères aidants-famille. Je peux donner le numéro?
Oui, bien sûr, puis on va le rappeler à la fin aussi, en rappel. Ouais.
Alors, le numéro, c'est le 1-800-349-9915. Et c'est une ligne téléphonique qui sont exclusivement répondues par des pères aidants-famille.
Peu importe la problématique en santé mentale, là, c'est ça. C'est dès qu'on est une famille ou un entourage d'une personne qui a une problématique, on peut appeler là puis demander un service d'être jumelé finalement avec une personne.
Dans les faits, ça va être un service de soutien et d'écoute.
Okay.
Puis par la suite, ben, dépendant de la région, fort possible que la père aidante-famille vous réfère à l'organisme un petit peu plus spécifique de votre région qui va pouvoir prendre le relais.
Ouais.
Ce n'est pas dans toutes les régions ni dans tous les organismes communautaires qu'il y a des pères aidants-famille, mais plus la demande va venir des gens, plus qu'on va voir des pères aidants-famille s'installer dans les organismes et dans les institutions.
Qu'est-ce qui fait que, Julie Coulombe, vous êtes impliquée, que vous continuez, tu sais, vous auriez pu dire, bien, écoute, je vais aider, oui, la personne de mon entourage qui a besoin d'aide. Mais pourquoi continuer ça pendant des années? Vous y retrouvez certainement un bénéfice là, personnel. Et vous, certainement, là, qu'est-ce qui vous tient, en fait, à impliquer comme ça?
Moi, j'ai à cœur, puis je suis vraiment motivée d'adoucir le parcours des familles qui, comme moi, ont traversé ou traversent actuellement des moments difficiles avec leurs proches qui ont des enjeux de santé mentale. Je souhaite faire avancer la cause de la santé mentale, contribuer à déstigmatiser, faire connaître les nouveautés, les traitements, ce qu'il y a de disponible pour les membres de l'entourage. Mon souhait, c'est d'accompagner les membres de l'entourage pour qu'ils deviennent de meilleurs accompagnateurs pour leurs proches.
Parce qu'ils font partie du rétablissement de la personne, c'est ça? On les a souvent comme un peu ignorés à une certaine époque, là, c'est moins le cas aujourd'hui, mais effectivement, ils sont très importants dans le rétablissement. Là.
Ils sont essentiels et c'est prouvé que le rétablissement d'une personne va être grandement amélioré s'il y a l'implication des membres de l'entourage. Mais eux aussi, ils ont droit à leur propre rétablissement. Donc, c'est en allant chercher du soutien qu'ils vont pouvoir l'avoir, puis réavoir espoir, dans le fond, au rétablissement, puis que les choses vont se placer éventuellement.
Ouais, c'est ça. C'est ça, puis on a l'impression, puis c'est pas juste une impression, je pense que les gens manquent beaucoup d'informations. C'est un peu normal là, s'ils ne sont pas confrontés à une problématique dans leur entourage. C'est quand même un gros monde, là, la santé mentale, puis c'est pas... On souhaite jamais, je pense, vivre ça, parce que ça reste que c'est une problématique qui est souvent grave, qui affecte beaucoup de gens. Mais quand les gens se confrontent à ça, au moins ils ont des services, ce genre de services-là dont vous nous parlez. Là.
Actuellement, c'est méconnu, mais c'est justement pour ça que je suis ici, c'est pour ça. Faire connaître le service. À la Société québécoise de la schizophrénie, nous sommes deux pères aidants de famille. Il y en a dans la capitale nationale, il y a sans favoriser aucun organisme, mais il y en a chez Arborescence, ça commence à s'implanter dans les cliniques de premier épisode psychotique.
Ouais.
Et puis, plus les gens du milieu de la santé vont apprendre à connaître le bienfait des pères aidants-famille, plus on va en parler, plus qu'ils vont le demander et plus qu'on va s'implanter pour pouvoir améliorer grandement la trajectoire de rétablissement des proches.
Oui, vous me parliez avant d'entrer en onde que vous participez à une recherche. Je pense que ça vous tient aussi à cœur. Puis c'est important de peut-être voir les meilleures pratiques. Puis c'est peut-être dans ce but-là que la recherche est faite. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? On a quelques minutes.
Dans le fond, moi, j'ai entendu, parce que je suis sur une communauté de pratique des pères aidants famille en santé mentale, j'ai entendu parler d'un projet des fonds de recherche du Québec. Ça s'appelle le programme Engagement, qui voulait être un programme de science participative. C'est-à-dire qu'une citoyenne, c'était de poser une question par quelqu'un qui n'avait jamais fait de recherche. Et après, il y avait un jumelage avec un chercheur ou chercheuse qui était intéressé par la question de recherche. Alors, j'ai posé ma question qui concernait la père aidance famille puis la navigation dans les soins de la navigation dans le système de santé. Et puis, j'ai eu la chance d'être jumelée, de me jumeler avec Marie-Hélène Morin, qui est travailleuse sociale et professeure à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, maintenant, j'occupe également les fonctions de citoyenne chercheuse à l'Université du Québec à Rimouski.
Et tout ça en travaillant, donc ça vous tient occupé, tout ça, là? Oui. En travaillant à temps plein, là,
oui.
un job à côté de ça, mais...
Tout à fait. Dans le fond, je travaille à temps plein pour la Banque nationale, qui ont un programme de père aidant en entreprise.
Ça, c'est intéressant, c'est ça? L'entreprise, oui, peut comprendre votre cheminement ou votre implication, là?
La père aidance en entreprise, c'est pour... c'est du soutien aux employés. Et puis, c'est comme un... On sait que ça fait partie des meilleures pratiques en santé mentale en entreprise. Donc, ils ont emboîté le pion. Maintenant, ça fait 2 ans qu'ils offrent ce programme-là à la Banque nationale.
Donc, finalement, ça se recoupe dans le sens que vous pouvez amener vos connaissances, votre expérience dans le milieu de travail et vice-versa.
Exactement.
Ça comble votre vie. En fait, votre vie, c'est un engagement. Donc, finalement, ça permet de... un engagement pour ça. Donc, c'est intéressant. Yeah.
Moi, il n'y a pas de doute, là, je suis une personne engagée, ouais. Je suis motivée, la santé mentale, c'est ma cause.
Oui, puis arrive rien pour rien. Puis j'imagine que, tu sais, on souhaite pas, personne ne souhaite ça, je pense, on aimerait ça, même nous, pas faire l'émission parce qu'il n'y aurait pas de problème de santé mentale, mais ça donne qu'il y en a, puis il faut qu'on trouve des solutions. Fait que je trouve ça intéressant quand même, votre engagement. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro de téléphone des gens qui voudraient, comme vous avez mentionné tantôt, un numéro de téléphone, puis j'aimerais ça qu'on, si jamais vous avez des références quelconques, là, que ce soit des écrits ou des choses que les gens pourraient aller voir. Là. Donc, le numéro de téléphone, ça serait lequel?
Bien, le numéro de téléphone, c'est le 1-800-349-9915. Il y a une magnifique infographie sur la père aidance famille qu'on a produit dans le cadre du projet de recherche, mais moi, j'invite toujours les gens à aller voir les sites Internet des organismes communautaires, les sites Internet du réseau Avant de craquer, qui est, ouais, extrêmement intéressant, qui est plein de ressources.
Et peut-être en cherchant père aidance famille aussi, on va trouver plein de ressources.
Ça. Et voilà.
Merci beaucoup, Julie Coulombe. C'était vraiment intéressant. Puis bonne continuation. On viendrait nous reparler de la suite éventuellement. Ça évolue toujours. Donc, merci d'avoir été là à l'émission Folie douce.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
D'un trail en prenant de la bière. J'aime ça mettre mes belles robes le soir pour aller danser. J'aime ça faire du 4 roues dans la boîte puis rester poigné. Semi-route, semi-trail. Tu peux m'amener à pêche dans ta chaloupe de 15 pieds. On mettra nos poteaux
Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter.
Et bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, tu nous poses une question. Faut-il ou non se défouler?
Oui, je pense que la plupart des gens à qui on posait la question nous diraient oui, c'est important de se défouler.
Mais avec peut-être un peu de retenue. Parce qu'on prend une masse et on casse tout chez soi, peut-être que le lendemain, on va regretter.
Oui, sûrement.
Il faut faire attention.
Il ne faut pas se défouler trop sur les autres non plus.
Oui, puis il faut que ce soit encadré, là, c'est sûr.
Alors je suis allé voir, pour commencer, pour m'amuser, qu'est-ce qu'on donne comme définition de se défouler. Je suis allé voir sur le site du Centre national des ressources textuelles et lexicales. On nous dit, de façon usuelle, c'est, si on parle, par exemple, de l'occasion de se défouler, c'est une libération des tensions intérieures, des interdits, attitude ou comportement libre, sans culpabilité ni retenue. On nous dit aussi que c'est un acte ou une attitude particulière par lequel les tensions psychiques se résolvent. Si on regarde en psychanalyse, on nous dit que c'est une mise en évidence des représentations pulsionnelles refoulées de sorte qu'elles puissent s'intégrer au niveau préconscient ou conscient. Alors, maintenant, selon un article que j'ai trouvé sur Internet, ça s'appelle « Débat, faut-il ou non se défouler? » C'est sur le site psychologie.com.
Moi, j'aurais tendance à dire que oui, là, je ne veux pas voler le punch, mais il me semble que ça fait du bien se défouler, là, de façon civilisée. Là.
Tu vas voir dans l'article que oui, on dit que oui, ça fait du bien de se défouler. C'est un article écrit par Mme Isabelle Filioza. C'est une psychologue et clinicienne, en plus d'être auteure. J'ai déjà lu d'ailleurs d'autres articles par cette Mme Filioza sur le même site. Alors, oui, elle nous dit dès le départ, oui, il faut se défouler, car elle nous dit pleurer et crier en thérapie, c'est redonner la parole au corps. Ou non, inutile de taper sur un coussin, c'est pire après. Il y a polémique, tout en nuances. Par exemple, une gymnaste pleurait depuis qu'elle était tombée paralysée par la peur. Elle ne pouvait plus réaliser sa figure favorite. Je l'ai aidée, ça c'est Mme Filioza qui parle toujours, je l'ai aidée à sentir son émotion, à laisser cette dernière parcourir son corps. Nourrie par une respiration ample, la réaction physiologique naturelle se réveille. Trois grands cris sortent de sa gorge. Quelques minutes plus tard, elle exécute sa figure gymnique sans problème. Une autre, maintenant, du nom de Anne. Depuis qu'Anne a pu ressentir et vivre les émotions liées au viol subi dans son enfance, son herpès génital a disparu. Un nœud au ventre présent depuis plus de 20 ans qui disparaît en quelques minutes.
Effectivement, il y a beaucoup, je pense, de choses ancrées en soi qui peuvent créer des problématiques de santé. Là.
Oui, exactement.
C'est pas sorti. Là,
ouais. Une panique de parler en public qui s'évanouit en quelques hurlements pour d'autres. C'est si simple de redonner la parole au corps. Pourquoi se priver d'un tel outil de réparation? Pourquoi avoir peur de s'exprimer? C'est si bon de crier, de faire du bruit, de rire à gorge déployée, de pleurer à gros sanglots. C'est si bon de se sentir vivant.
Ouais.
L'émotion est un processus physiologique. La nature nous en a dotés pour notre plus grand bien. Nos émotions ont pour fonction de nous préparer ou de réparer notre organisme. La décharge fait partie du processus de libération. Inhiber l'expression d'une émotion, c'est bloquer une réponse physiologique de l'organisme. C'est conserver la tension. Faut-il donc toujours pleurer ses détresses, crier ses terreurs et manifester bruyamment ses colères? Non. Seules nos émotions naturelles sont exprimées. Or, 80% de nos réactions émotionnelles ne sont que des sentiments parasites. Ce sont des émotions emmêlées, des blessures non guéries de l'enfance, des sentiments écrans de nos émotions véritables. Beaucoup d'entre nous ont du mal avec leurs émotions parce que la société nous invite à les réprimer depuis notre plus jeune âge. Elles sont coincées en nous depuis si longtemps que nous avons peur qu'elles ne détruisent tout autour de nous si nous les laissons affleurer. C'est un fantasme de tout petit enfant. Il ne s'agit pas d'exprimer n'importe quoi, n'importe comment. La décharge qui libère est celle qui a du sens parce qu'elle est entourée de mots.
Et peut-être que ça doit être fait un peu sous encadrement, jusqu'à un certain point. Tu sais, le défoulement, des fois, dans certains cas, peut-être ça peut être souffrant de trop, ouais. Tu sais, quelqu'un qui a trop de choses à sortir. Là.
Mm-hmm. Aujourd'hui, nous dit Mme Filioza, il existe en psychothérapie de multiples approches. À chacun de sentir la route qui lui convient le mieux. Pour ma part, j'aime celle de la décharge émotionnelle parce qu'elle est simple, naturelle et belle. Je l'utilise encadrée par d'autres techniques et outils. Maintenant, M. François Lelord est psychiatre spécialisé dans le conseil en ressources humaines. Il a des réticences. Il nous dit « Vous vous sentez tourmenté par des émotions sans rien en laisser paraître. Peut-être regrettez-vous de n'avoir pas suivi une thérapie de groupe où les participants expriment leur colère rentrée en hurlant et en frappant des coussins ou en éclatant en sanglots en évoquant leurs blessures passées, libérant leurs émotions sous l'œil bienveillant du groupe. Cette vision des émotions comme un trop-plein qu'il faut savoir évacuer de manière explosive a longtemps été prédominante en psychologie. Mais des études récentes montrent que cette « vidange émotionnelle » entre guillemets n'est pas aussi bénéfique qu'on le croyait. Lorsqu'on demande à des sujets d'exprimer bruyamment leur colère en criant et en frappant, ils se sentent encore plus en colère après l'expérience. Ils sont plus irritables et leur tension artérielle plus élevée. Mais je vais m'arrêter ici.
Et tu vas continuer l'interrogation plus tard à l'espresso allongé. Faut-il ou non se défouler?
Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair.
Bien, j'accueille maintenant notre collaboratrice, donc Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet important, le deuil, en fait, chez les hommes, mais surtout déboulonner ou défaire des préjugés face au deuil chez les hommes.
Oui, parce que dans la société, en tout cas dans notre quotidien, on a souvent tendance à dire que les hommes vont être moins perturbés par le deuil.
Oui. Peut-être moins c'est un verbe.
De moins en moins, quand même. C'est sûr que ça se défait, ces préjugés.
Oui, oui. Mais c'est vrai qu'on
pense que... Et c'est le sujet, d'ailleurs. C'est comment les défaire. Et...
Ouais.
Mais en fait, c'est sûr que, basé juste sur le fait que ce sont des hommes, c'est évidemment faux, ça.
Ouais.
Que les hommes sont moins perturbés par un deuil. Mais c'est certain que, comme depuis l'enfance, on a tendance à leur dire, allez, je prends un exemple tout simple, un petit garçon, ben, saute du mur, allez, tu peux bien faire un effort, saute du mur, n'aie pas peur.
Ouais.
Une petite fille, on va peut-être lui dire, oh, ben, si t'as peur, descends autrement ou quoi. Je parle, ça change très fort maintenant, j'en suis bien conscient.
Mais peut-être que c'est encore un peu comme
mais
ça.
Mais il y a quand même des ancrages qui restent.
Ouais.
Peut-être là, je prends quelque chose de caricatural, mais ça reste un petit peu dans la société, malgré tout. Tout ça, évidemment, ça conditionne un adulte le jour où il va vivre un deuil. Et on peut commencer par le premier préjugé qui est celui que les hommes seraient moins affectés, soi-disant, par le deuil.
Ouais.
Alors, évidemment, si depuis l'enfance, on leur dit « sois fort
», tu ne devrais pas pleurer ou tu dois être plus fort que ça.
Voilà, sois solide, montre-toi fort.
Ah oui, c'est ça. T'es un homme.
Comme dit l'étude d'un professeur de l'université de Chicoutimi, en fait, l'homme va finir par ne pas oser s'épancher et partager son chagrin, ni avec sa blonde, ni avec sa famille. Donc, il va un petit peu souffrir à l'intérieur.
Il faut dire qu'il n'y a pas un homme pareil comme il n'y a pas une femme pareille. Il y a peut-être des hommes plus sensibles et des hommes plus moins sensibles et des femmes la même chose. Donc,
je n'en connais pas assez suffisamment pour faire des statistiques, mais je pense en effet que il y a quelque chose, il y a des personnalités dans les êtres humains et puis voilà, et on est conditionné par les genres, l'éducation dans laquelle on grandit, etc.
Et ça dépend du deuil aussi. Tu sais, des fois, il y a peut-être des deuils qui vont nous affecter plus.
C'est certain. Dans le pire des cas, malheureusement, le fait d'intérioriser ce chagrin, dans le pire des cas, je dis bien, peut mener au suicide.
Ouais.
Alors, on parle aussi souvent que les hommes, ils vont pas discuter de leur chagrin. Ils vont pas discuter qu'ils ont de la peine, que leurs parents sont décédés ou ils vont prendre ça pour un signe de faiblesse parce que pour eux, ils ont été éduqués, ils doivent vivre en tant qu'homme et vivre leur chagrin comme homme. Donc, tout ça dans une certaine masculinité,
ouais.
Un côté vraiment caricatural de l'homme. Et donc, il va plutôt le montrer dans l'action. Et comment ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va agir violemment, il va réagir violemment ou il va se murer. Il aura des réactions, on ne va pas comprendre ce qui se passe, on ne va pas comprendre d'où ça sort. Mais en fait, il a accumulé à l'intérieur.
Ouais.
Et donc, ça s'exprime uniquement par ces actions-là.
Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, que je dis souvent.
Hein. Oui,
fait que s'il ne réussit pas à exprimer les choses, des fois, ça va rester en dedans, puis à un moment donné, ça sort. Hein.
Ça sort, et puis ouais. Ça s'imprime peut-être de manière pas toujours très agréable.
Non,
alors,
ça ne sort pas de la bonne façon.
Pour l'entourage, ni pour la personne.
Ouais.
La personne, après, va certainement se sentir mal.
Oui, exactement.
Mais on voit aussi qu'on dit, oh oui, mais les femmes... son mari est mort il y a 2 ans, la difficulté à se remettre, etc. Bon, on peut trouver ça normal dépendant de l'âge, évidemment, des conjoints respectifs.
Ben, en même temps, 2 ans...
Un homme, on va peut-être lui dire, ben, écoute, faudrait peut-être que tu retournes au travail, on s'attend plus rapidement, ou s'il retrouve une blonde plus rapidement... On va moins le regarder de manière négative comparé à une femme qui se retrouverait vite quelqu'un.
OK, dans le sens qu'elle ne ferait pas son deuil assez longtemps, par exemple.
Peut-être.
Lui, c'est correct qu'il ne le fasse pas, genre.
C'est ça. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, le préjugé veut que le deuil dure moins longtemps chez l'homme, mais c'est la manière de le vivre et qui fait ça, et son conditionnement social.
Et comme tu dis, ce sont des mythes, c'est ça? On essaie de les déboulonner maintenant.
Ce sont des préjugés qu'on a. Et qu'on essaye de démonter un petit peu aujourd'hui pour comprendre qu'on agit tous aussi selon des comportements qui sont ancrés en nous par notre éducation familiale et aussi par la société, qu'on vit en société.
Ouais, et ça va peut-être prendre quelques générations parce que gens qui ont été élevés comme ça, qui sont aujourd'hui plus vieux, ben ils reproduisent un peu comme ça s'ils ne décident pas de casser la roue, là. Fait que c'est ça l'affaire. Il faut que quelqu'un, à un moment donné, décide de dire, c'est pour ça qu'en informant les gens comme tu le fais aujourd'hui, ben prendre conscience, peut-être changer nos comportements pour dire, ben, cassons cette roue-là, arrêtons de perpétuer toujours cette espèce mythe.
On a beau des fois casser ces trous, comme tu dis, on va se retrouver, un enfant va se retrouver dans le milieu éducatif, ou peut-être que là, il y a encore ce genre de préjugés qui, je ne dis pas partout, mais ça peut arriver que ça reste là, ou dans des réflexions nous-mêmes. On ne le veut pas, mais il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui est ancré.
C'est ancré, puis peut-être quelque
chose... Je ne jette la pierre à personne ici. C'est vraiment quelque chose qui est autour de nous, qui s'ancre en nous également
plus on en parle, plus on le démystifie, s'il y a quelques personnes qui en prennent conscience, c'est mieux que rien du tout. Là.
Exactement.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a, soi-disant, le préjugé que... Les hommes ont besoin de solitude, on va laisser dans son coin, il doit vivre son deuil.
Il doit être géré, tranquille.
Ça. Mais en fait, ce n'est pas vrai du tout pour la majorité des hommes. Ça dépend l'homme, ça dépend sa personnalité. Il y en a qui vont avoir besoin de ça, il y en a qui ne vont pas en avoir besoin.
Mm-hmm.
Il y en a qui vont avoir besoin de ça un petit peu, à petite dose. Ça dépend donc, ce n'est pas juste l'homme qui a besoin de solitude pour le deuil. C'est vraiment un préjugé, ça. Et d'autant plus qu'en fait, comme ils sentent qu'on évalue qu'ils ont besoin de cette solitude, etc., ils vont pas oser demander peut-être une présence plus soutenue. S'ils ont perdu un conjoint, de dire à leur entourage, j'ai besoin de plus de soutien, j'ai besoin que tu passes peut-être, parce que je me réveille tous les matins avec cette personne, et puis maintenant c'est dur, est-ce qu'on peut pas avoir un horaire d'après lequel on se voit plus régulièrement, etc. Donc, ils vont peut-être pas oser dire ça, les hommes. Ils vont rester dans ce schéma de solitude. Et le soutien, du coup, ne va pas être apporté. Alors que souvent, une femme, les femmes, en tout cas, passent pour avoir connu le deuil. Je sais que moi, je me rappelle que les gens m'amenaient de la soupe, tout simplement, ou remplissaient mon frigo, des choses comme ça. Et ça, je trouvais ça extraordinaire, je trouve ça très, très chouette.
Ça donne comme un support, là.
C'est tout un support. Et puis, il y avait une régularité, etc. Est-ce que c'était cette manière de s'occuper d'une femme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une différence, là, dans ce qui est préjugé sociétal. Alors, on peut dire encore un des derniers préjugés qui tient bien la route, c'est que les hommes vont moins souffrir de ces perturbations du deuil. J'en parlais tout au début. Et que... ces perturbations, en tout cas, nous, on ne va peut-être pas savoir où les trouver. Comme je disais un peu avant, ça peut être l'irritabilité. Ça peut être des gens qui vont s'automédiquer, c'est-à-dire, ils prenaient peut-être des somnifères, ils vont se dire, j'en prends un peu plus des somnifères parce que dans le fond, je ne m'en sors pas. Et ça, j'ai trop de chagrin, ça ne va pas. On peut dire ici que les femmes sont 4 fois plus nombreuses à faire des tentatives de suicide que les hommes.
Hein. Ah bon?
Oui, les femmes. Mais attention, en 2018, 2 suicides sur 3 étaient quand même des hommes. Alors on peut se dire, est-ce qu'il y a quelque chose là où l'homme casse en deux parce qu'il n'a pas pu aller chercher du soutien, pas pu parler, etc.
Ça veut dire qu'il y a comme une hausse assez soudaine où il y aurait 2 suicides sur 3. Alors
en 2018, hein, ouais, moi en 2018, je sors mes chiffres.
Mais c'est quand même étonnant pour
voilà,
ce qui s'est passé.
Le deuil chez l'homme est quelque chose qui peut les casser en deux, mais ça va se voir trop tard.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a ce sentiment de honte, ils ont intériorisé, c'est un signe de faiblesse, donc ils vont développer les troubles anxieux, dépressifs, dépression sévère, avant d'aller chercher de l'aide, et des fois, quand c'est un petit peu tard. Donc, il a l'impression, l'homme, d'être dévalorisé quand il fait ça, parce que il a acquis tout ce que la société lui a dit.
Il pense qu'intérieurement, il se dit, je dois le vivre comme ça parce que je me suis comme... C'est comme un conditionnement, dans le fond.
C'est un conditionnement social. Voilà, c'est ça. Donc, c'est important de dire ici qu'il faut comprendre ce que les hommes vivent pour arriver à déconstruire tout ce qu'ils vivent, d'accord? Ouais. Et aller les aider. Il faut qu'ils comprennent, les hommes comme les femmes d'ailleurs, pour les soutenir, que c'est ancré dans notre manière, dans nos comportements sociaux, d'accord ? Et donc, c'est ça qui est d'autant plus difficile. Comme tu disais, on peut casser la roue familiale, mais il y a toute la société qui nous enrobe. Et donc, c'est assez difficile de se débarrasser de ça d'un seul coup.
Mais comme les gens écoutent l'émission Folie douce et ta chronique, on va sûrement aider tranquillement, très humblement, à améliorer la perception et surtout le conditionnement des...
arrêter, là. Donc, ne pas s'imaginer que telle personne est isolée parce qu'elle a envie, non, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, suite à un deuil, aller peut-être proposer quelque chose. Et
aller au-devant des gens, c'est aller, ça, les gens sont timides, des fois, ils ont peur de déranger, mais effectivement, je pense que la majorité des gens ont besoin de cette aide-là, il ne faut pas attendre qu'ils demandent l'aide, il faut s'offrir un peu.
Voilà, et le formuler de telle manière que ces personnes-là ne se sentent pas dévalorisées, ne se sentent pas que ce n'est pas un acte de faiblesse de demander du soutien, mais que quand on aime bien quelqu'un, on est là pour les soutenir, et ça fait partie de la vie.
Et des fois, ils n'osent
pas
demander.
Donc, on peut tourner ça comme ça.
Oui, mais s'ils reçoivent de l'aide, des fois, ils vont juste dire, surtout après coup, ils vont dire, cette aide-là, là, je ne l'ai jamais demandé, mais je l'ai reçue, puis ça fait du bien, donc c'est simple.
Ils vont commencer à l'apprécier.
Oui, exactement, c'est ça, avec le décalage, des fois, ils vont voir que c'était très utile à l'époque.
Oui, je donne évidemment les coordonnées de Télécoute... le deuil, il existe
deuil,
une ligne, vous verrez,
spécialement
il y a
pour
des
le deuil,
références.
Ouais.
Voilà.
En fait, on peut le dire, c'est un 1-888, le deuil, je crois.
C'est
hein,
ça, c'est telle écoute qui fait ça.
Ouais.
Donc, il y a aussi les références de l'ordre des psychologues, bien entendu. Si votre maladie dure plus que quelques semaines, quelques mois, c'est sûr qu'il vaut mieux aller consulter. J'ai donné aussi les références des articles sur lesquels je me suis basée, notamment l'étude du professeur... Jacques Cherblanc de Lucac.
Il nous reste encore environ une minute, mais je veux mentionner que les coordonnées dont tu mentionnes vont toujours être au même endroit sur notre site internet, antenne.qc.ca, dans la section « Mentionner folie douce », c'est ta chronique, Catherine Stossin, donc sur le deuil chez les hommes. Un dernier mot, une minute peut-être, là, quelques mots en conclusion de cette
chronique. Peut-être ne jamais prendre pour acquis que la personne va se débrouiller. Pensez que vous êtes peut-être une personne qui peut aller l'aider, qui peut déclencher quelque chose, ou au moins proposer des solutions de soutien. Si la personne n'accepte pas votre soutien à vous, peut-être aller chercher, lui proposer d'autres avenues, et la personne se décidera sur ce qui lui convient le mieux.
Et il y a vraiment beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'aide, que ce soit les locaux, que ce soit, comme tu dis, l'ordre des psychologues, cette ligne-là.
La ligne d'écoute va orienter les gens. Ouais. Il y aura moyen, en fonction du lieu où vous habitez, des fois les professions, les ordres auxquels vous appartenez, ou on les agriculteurs, ou peu importe, vous recevez de l'aide un petit peu aussi en fonction de cela.
Il faut s'informer auprès de notre milieu, là, ça, de travail, voilà. De milieu de vie, là, effectivement. Merci beaucoup, c'était Catherine Sassin, pour cette chronique. Donc, le deuil chez les hommes, mais spécialement les préjugés, en fait, qu'on a essayé de déboulonner, en tout cas, les 5 mythes que tu nous as amenés. Merci, Catherine, et à une prochaine chronique.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Black to black or black everything. I got another when your feelings out on everything. Another one for the city, hustle every day. I put it down for the fam, word on everything. Minus 40 weather, I ain't playing no. It's that holy weather for the brains now. This is why I'm cold, roll the bait now. Roll with the pace now. It's the way I keep my shit humble. I keep it real tight. Another level done, hit another tough flight. It's the one. Never die. This is why I do it. This is forever and I. When I'm long gone, yeah, my words will never die. It's the holy war. I just want my peace of mind. You pray for my fall. I just count my blessings. Y'all can pray for my fall. I just count my blessings. You can never be me. I don't even know yourself. Yeah, that shit depressing. Yeah, you don't even know yourself.
À Folie Douce, parce que la santé mentale nous concerne tous.
Cette fois-ci, à l'espresso allongé, on poursuit le sujet que tu as débuté plus tôt. Faut-il ou non se défouler, Pierre?
Oui, d'après un article qui s'appelle tout simplement comme ça, débat, faut-il ou non se défouler? C'est un article que j'ai pris sur le site psychologie.com, écrit par Mme Isabelle Filioza, qui est psychologue clinicienne, en plus d'être auteure. Alors, je vous disais tantôt, j'étais en train de citer un monsieur du nom de François Lelord, qui est psychiatre spécialisé. Spécialisé dans le conseil en ressources humaines. Alors lui, il a beaucoup de réticences avec, en tout cas, il a certaines réticences avec le défoulement. Il nous parlait de thérapie tantôt. Alors il disait que demander aux gens de pleurer en évoquant un événement triste aboutit à un résultat où ils sont plus tristes encore et plus perturbés que ceux à qui on a simplement demandé de raconter l'événement sans exiger qu'ils se laissent aller aux pleurs. La théorie de la vidange émotionnelle oublie que nos émotions ont une fonction capitale de communication avec autrui. Exprimer une émotion de manière adaptée, c'est faire en sorte qu'elle nous aide à résoudre un conflit ou à améliorer notre relation à l'autre. Plutôt que de vous défouler contre un coussin, entraînez-vous plutôt à exprimer votre colère au moment où l'on vous contrarie, en la dirigeant contre celui ou celle qui cause votre ire, et arrangez-vous pour que votre colère ne soit pas insultante ou trop accusatrice, afin de laisser la place plus tard à une résolution du conflit qui vous évitera d'autres colères. De même, sangloter à chaudes larmes en solitaire risque de vous abattre encore plus. Essayez plutôt d'exprimer votre tristesse face à un interlocuteur bienveillant et capable d'exprimer sa compassion. Les larmes ont une fonction d'appel à l'aide en s'apaisant par la consolation. Les laisser couler dans la solitude ou face à des gens indifférents ne vous aidera pas. Mm-hmm. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'essayer de te défouler?
Défouler, mais oui. dans des façons plus défoulantes, là, d'après moi. Là. Mais c'est ça, parce que tu disais, tu sais, de pleurer tout ça, seul, ça, mais il y a des gens qui disent que ça fait aussi du bien, mais tu sais, ça dépend toujours, tu sais, parce que ça sort quelque chose quand même.
Je me rappelle d'avoir vu, là, ça fait déjà longtemps de ça, mais il y avait un endroit où on pouvait se rendre, on payait un montant, on nous remettait une masse, une grosse masse, et puis on frappait sur des automobiles.
Mais c'est
des belles automobiles, pas des automobiles toutes démantibulées.
Pas des citrons.
Non, c'est des voitures en très bon état.
Ça coûtait cher, là.
C'était des voitures... qui semblaient des voitures usagées, mais là, les gens démolissaient, frappaient le pare-brise, puis tout partout.
Mais je sais que dans le Mile End, je l'ai vu, là, puis il y a des gens qui connaissent ça, il y a un endroit où on peut lancer des haches, puis des couteaux sur une espèce de cible, là.
Ouais.
Fait que ça peut rentrer, là, ça peut quand même être bien, surtout si tu mets la photo de quelqu'un qui t'écœure.
Oui, c'est ça. Alors, on nous dit en conclusion, savoir exprimer nos émotions, ce n'est pas vidanger après coup, mais les exprimer au moment où elles surviennent, en tenant compte de la situation et des interlocuteurs. Ni rétention ni explosion, mais un acte de communication par lequel elles nous aideront à mieux trouver ou défendre notre place au milieu de nos semblables.
Ouais.
Maintenant, dans un autre article qui s'appelle « 8 conseils pour se défouler » entre parenthèses, sans s'en prendre aux autres.
Très important.
C'est sur le site Côte Planète. C'est un article qui est écrit par une demoiselle du nom de Amandine S. Alors, elle a choisi de taire son nom de famille. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais le site coteplanete.b est une plateforme belge de communication, d'annonces et d'informations destinée aux étudiants et jeunes de 18 à 35 ans. Alors, premier conseil, écrire sur une feuille, puis la brûler. Tu as une forte envie de dire à quelqu'un tout ce qui te passe par la tête, ne le fais pas, c'est un conseil. Tu risquerais juste de déclencher la guerre entre vous et d'être blessant. Quand tu as envie d'extérioriser tes sentiments, écris-les sur une feuille et brûle-la. Tu seras la seule personne à savoir ce qui a été dit et tu éviteras tout problème.
Ouais, et ça a quand même sorti le méchant, si on veut.
Oui, sûrement. Alors, deuxième conseil, casser des assiettes. Là aussi, tu peux écrire sur l'assiette ce que tu ressens. Ensuite, tu la mets dans un plastique que tu fermes et tu la jettes de toutes tes forces sur le sol. Le plastique est important. Ça t'évite de devoir ramasser tous les morceaux.
Les mille morceaux, après. Hein, oui. Effectivement.
Troisième conseil, hurler dans son oreiller. Alors, ça semble populaire. Alors, celui-là, c'est un classique.
Ou dans un coussin.
Oui. Il te suffit d'avoir un oreiller à disposition et tu hurles dedans. C'est simple et efficace.
Et ça ne dérange pas personne.
Non. Quatrièmement, faire du sport. En vrai, faire du sport, c'est un bon moyen pour se défouler. Le sport te permettra d'évacuer tes émotions en te focalisant sur ce que tu fais. La colère peut aussi te booster.
Ouais.
Cinquièmement, faire un loisir artistique. Si ton truc à toi, c'est la peinture, la musique ou le théâtre, défoule-toi grâce à ces activités.
Lancer de la peinture avec des pinceaux sur une grande toile,
ça ouais, peut-être. Défoulant. Ouais. Parfois, on est beaucoup plus inspiré lorsqu'on ressent des émotions fortes.
Ouais.
Sixièmement, nettoyer. Ça peut paraître étrange, mais nettoyer pour t'aider à te défouler, faire la vaisselle, passer l'aspirateur, nettoyer les toilettes, tout est bon pour s'acharner sur la saleté.
Et il va y avoir quelque chose de très positif. Tu vois, ça va être propre chez toi.
Ça va être propre, oui. Septièmement, jouer à des jeux vidéo. Passer ses nerfs sur les jeux vidéo, ça peut fonctionner. Tu peux jouer à des jeux de combat pour t'en prendre à quelqu'un qui n'existe pas réellement. Les jeux de course comme Mario Kart peuvent être aussi une solution. Tu lances des objets sur tes adversaires pour essayer de gagner la course. C'est pas mal, non? Et évidemment, n'y joue pas si tu es mauvais perdant. Ça ne ferait que t'énerver davantage. Et finalement, suivre Code Planète, leur propre site. La légende raconte que si tu suis Code Planète sur les réseaux, ta colère partira instantanément.
Ils vont donner des bons trucs.
Mais ça, je suis pas sûr.
Ah, mais c'est intéressant, ces trucs-là, quand même. Faut-il ou non se défouler? Merci, Pierre, pour cette chronique.
Souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Avant de terminer ce rendez-vous, Pierre, on va nommer les chansons. On écoutait en début d'émission oui. « Je te pardonne ».
De Hoshi.
On a écouté la chanson « Semi-route, semi-trail ».
De Sarah Dufour.
Dans la deuxième demi, « Another One ».
De Naya Ali.
Et à l'instant, « Illusion ».
De Joey Napoléon.
Merci beaucoup pour ce choix musical et ton travail en régie.
Bien, bienvenue, mon cher.
Et merci également pour ton sujet aux espressos où tu as posé la question, faut-il ou non se défouler? Je pense qu'on en conclut qu'il faut se défouler, mais de façon intelligente. Ouais. Alors, merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Julie Coulombe, nous a mieux fait connaître la père aidance famille. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous a parlé du deuil chez les hommes et surtout 5 mythes à déboulonner. C'est donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.